J'essaye de faire un essai de voix, ça marche.
Voilà, Marc Péchanski donc vous parle des thérapies géniques entre succès scientifique et bulle financière.
Ça marche plus. Ça remarche. Bon, c'est parce qu'il y a un problème de localisation. Je sais pas si le micro sera pas mieux pour moi. Non, ça va être... D'accord, ça va tenir. Ok. Donc, je vais vous parler de thérapie génique. Alors, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas autre chose à faire le premier week-end de décembre, vous connaissez tous la thérapie génique parce que depuis des années, c'est vraiment le leitmotiv du Téléthon. Et il y a chaque année, depuis plus d'une quinzaine d'années maintenant, des présentations sur la thérapie génique. Pour les autres, et puis aussi si vous ne regardez pas le Téléthon la première semaine de décembre, les week-ends, vous avez pu voir, mais beaucoup plus récemment, ces derniers temps, un certain nombre d'articles dans la presse qui vous parlent de thérapie génique. D'accord, ça marche. Qui vous parlent de thérapie génique parce que on en est vraiment à un tournant de cette nouvelle médecine qui s'appuie sur des découvertes qui ont été faites maintenant il y a longtemps, qui nous permettent de manipuler le programme génétique dans nos cellules. Et comme ça nous permet de manipuler le programme génétique, ça nous permet éventuellement de le réparer. Donc la thérapie génique, bah, c'est utiliser ces découvertes qui ont été faites dans les laboratoires, en général académiques, qui ont permis de comprendre ce qu'était l'ADN, qui ont permis de comprendre ensuite comment on pouvait découper l'ADN, comment on pouvait éventuellement introduire quelque chose dans l'ADN pour réparer ce programme génétique de l'acide désoxyribonucléique, donc de l'ADN, lorsque quelqu'un est atteint d'une maladie génétique, ou même, beaucoup plus généralement maintenant, lorsque, en intervenant sur l'ADN, on peut apporter à nos cellules une capacité supplémentaire, une capacité nouvelle, qui va leur permettre de mieux fonctionner ou d'ailleurs d'être tué, ce qui est le cas lorsque on essaye de faire de la thérapie génique pour le cancer. Alors, je vais vous présenter tout ça, je vais essayer de vous passer un film explicatif de quelques minutes, il fait 3 minutes hein, à un moment donné dans les premières diapos. Et puis ensuite j'essaierai de vous passer d'autres films. On a un petit problème technique dans le passage des films, donc à chaque fois il faudra que je revienne sur l'ordinateur, mais c'est pas grave, ça ne prendra pas trop de temps, hein. Et puis je vais vous raconter donc ce qui est véritablement une saga, puisque dans la médecine on a comme ça des grandes idées qui émergent à un moment donné, qui sont développées, qui prennent du temps pour aboutir à des premiers résultats, et toute cette histoire apparaît vraiment comme une saga lorsque, au bout du compte, on arrive à des résultats qui méritent d'être présentés, des résultats qui peuvent ouvrir la voie à une nouvelle forme de traitement. Et puis je terminerai en vous racontant ce qui arrive malheureusement systématiquement dans ce monde qui est dominé par les puissances de l'argent. Et lorsqu'il y a des possibilités nouvelles pour l'humanité, eh bien ces possibilités vont être confisquées par les puissances de l'argent, vont être utilisées non pas pour faire le bonheur de l'humanité, mais pour faire de l'argent. Et aujourd'hui, on vit ça. C'est pour ça que dans mon topo, je vais vous parler des succès scientifiques et médicaux. Et puis, je vais terminer sur la bulle financière qui est en train de se créer autour de la thérapie génique et qui dévoile une face sombre de cette affaire, mais une face sombre qui existe, je le répète, systématiquement lorsque on regarde le monde comme il évolue. Les résultats qui pourraient être extraordinaires pour l'humanité aboutissent à des confiscations par les puissances de l'argent et à des défauts qu'on voit apparaître dans la façon dont ces résultats peuvent être mis à la disposition de l'humanité. Alors, la thérapie génique, qu'est-ce que c'est ? Je le dis en deux mots, et puis ensuite, je vais vous faire passer le film. La thérapie génique, c'est introduire un bout d'acide désoxyribonucléique, donc un petit bout du programme qui gère l'ensemble de nos cellules, l'introduire dans les cellules dans lesquelles on veut faire apparaître une nouvelle protéine, que cette protéine manque parce que on était atteint d'une maladie génétique et on en était privé. C'est le cas par exemple de la myopathie du Duchenne, que vous connaissez tous à cause du Téléthon, qui est cette forme de maladie génétique dans laquelle les muscles des malades vont dégénérer. Oui, il y a un petit problème. Parce que j'ai une grosse tête. Donc les muscles dégénèrent parce qu'il leur manque une protéine importante qui s'appelle la dystrophine. Et la myopathie de Duchenne, on essaye de la traiter par thérapie génique. Ouais, mais du coup, on ne m'entend plus, c'est ça? On m'entend? D'accord. Je vais gérer. Donc, on essaye de la traiter en ajoutant une partie d'ADN qui code, donc le gène qui code pour la dystrophie. Et puis dans d'autres cas, on va par exemple apporter une protéine qui est une protéine tueuse qui va être introduite au travers de son programme génétique, son bout d'ADN, dans les cellules de cancer, de tumeur. Et cette protéine, lorsqu'elle va s'exprimer dans ces cellules cancéreuses, va aboutir à leur mort et donc, on espère, à l'élimination du cancer. Alors on peut le faire de deux façons différentes, deux grandes façons. Ce qu'on a appelé la thérapie génique in vivo, la thérapie génique ex vivo. Alors c'est quoi ? Ben, in vivo, ça veut dire qu'on va essayer de transférer le gène thérapeutique directement chez l'individu. Alors directement, je vais expliquer comment. Ex vivo, ça veut dire qu'on va prendre des cellules chez l'individu. En général, c'est des cellules circulantes, hein, c'est des cellules du sang. Des cellules qu'on va prélever dans le sang, qu'on va travailler en laboratoire. Hein, on va mettre ça dans des boîtes de pétri. À ce moment-là, on va transférer le gène à l'intérieur de ces cellules et puis on va réimplanter ces cellules, réinjecter ces cellules dans le sang. Alors, pour faire ça, il faut un moyen de faire rentrer l'ADN à l'intérieur des cellules. L'ADN, c'est donc des acides désoxyribonucléiques. L'acide désoxyribonucléique, que ça soit petit ou très gros, dans nos cellules, l'acide désoxyribonucléique qui est dans le cœur, dans le noyau de chacune de nos cellules, c'est une énorme molécule. Une énorme molécule qui est formée de 6 milliards d'éléments. Donc c'est vraiment un truc considérable. Un gène, ça peut être quelques centaines ou quelques milliers de ces éléments. Et ces quelques centaines ou quelques milliers d'éléments vont donner le programme pour construire une protéine, alors que l'acide désoxyribonucléique, dans son ensemble, dans nos cellules, va produire les 25 000 gènes, donc va contenir les 25 000 gènes qui vont coder pour des 100 000 ou 150 000 protéines qui permettent à nos cellules de fonctionner. Donc c'est vraiment un tout petit bout. Mais ce tout petit bout, si on le met, par exemple, dans une boîte de pétri, dans le milieu qui baigne les cellules qu'on a mises dedans, bah, ce petit bout, il ne peut pas rentrer dans la cellule, et a fortiori, il ne peut pas rentrer dans le noyau de la cellule, parce que bah, il y a des forces qui s'y opposent. La membrane de la cellule, la membrane du noyau de la cellule, vont opposer une résistance, et l'ADN ne peut pas rentrer. Donc ça a été testé et retesté, hein. On a essayé par tous les bouts de le faire rentrer. On s'est résolu à utiliser, et ça maintenant il y a une bonne trentaine d'années, à utiliser des organismes qui font ça très bien, qui font ça tout à fait naturellement, c'est les virus. Les virus, c'est des organismes qui n'ont aucun moyen d'existence, sauf à introduire leur programme génétique dans une cellule, et a fortiori dans le noyau de cette cellule, de façon à transformer la cellule en une usine à produire du virus. Le virus lui-même, il est incapable de se renouveler, incapable de proliférer. S'il est tout seul à l'extérieur, c'est ce qu'on disait par exemple du virus du sida, vous avez tous entendu ça, le virus du sida, il est très fragile. S'il reste à l'extérieur du corps ou à l'extérieur des tissus humains, il est incapable de se renouveler et il disparaît très vite. Lorsqu'il trouve une cellule qui est une cellule accueillante, une cellule humaine, il va rentrer dans cette cellule, ou plutôt il va faire rentrer son matériel génétique à lui dans la cellule Et pour ça, il a développé tout un tas de stratégies qui vont lui permettre de se coller à la membrane de la cellule, d'ouvrir la membrane de la cellule, d'injecter le morceau d'ARN pour le sida ou d'ADN pour d'autres virus qui portent son programme génétique, plus quelques enzymes nécessaires pour que ce bout d'ADN ou d'ARN rentre dans le noyau et soit intégré, éventuellement après une petite transformation, c'est ce qui arrive pour le sida, à l'intérieur de la molécule d'ADN de la cellule. Et à ce moment-là, la cellule va croire que ce morceau d'ADN lui appartient et va produire des virus. Donc, le principe du virus, c'est typiquement ce que nous, on veut faire avec la thérapie génique. Sa façon de vivre, c'est exactement ce que nous, on veut faire, mais évidemment pas avec un morceau de génome viral, avec un morceau de génome qui code pour une protéine thérapeutique. Donc, le travail qui a été réalisé et qui a duré vraiment des années, ça a été de trouver des virus dans lesquels on pouvait désarmer complètement le virus, le rendre complètement inoffensif, hein, mais lui garder toutes ses capacités à faire rentrer un ADN ou un ARN à l'intérieur de la cellule, à l'intérieur du noyau. Et vous allez être surpris, mais le virus qui donne les meilleurs résultats pour ça, et qui est complètement désarmé en thérapie génique, c'est le virus du sida. Le virus du sida, c'est celui qu'on utilise pour faire ici cette thérapie génique ex vivo. Hein, on prend des virus donc, qui ont été complètement désarmés, on introduit le gène thérapeutique dans leur génome qui reste, leur génome résiduel, celui qui permet toute la machinerie pour ouvrir la membrane, se coller dessus, etc., que j'ai décrit. Sauf qu'au lieu d'injecter son génome à lui, le virus va maintenant injecter le gène thérapeutique. Ce gène thérapeutique, il va rentrer dans les cellules et il va transformer un certain nombre de ces cellules en cellules productrices de la protéine thérapeutique. Donc le virus du sida, c'est celui qui est utilisé vraiment dans cette conformation-là. Et ces cellules-là, bah, quand elles expriment le gène thérapeutique, on va les implanter chez le malade. Hein. Elles vont, si on les a bien choisies, commencer à faire leur boulot. Elles vont se loger, par exemple, dans la moelle osseuse, y faire tout un cycle de prolifération, produire des cellules qui vont se répartir dans l'ensemble du corps et finalement aboutir à une correction du déficit qui existait au départ dans les cellules. Pour faire de l'in vivo, c'est-à-dire pour introduire directement le gène chez l'individu, cette fois-ci, on va prendre un autre type de virus, le virus qu'on prend, enfin, la famille de virus qu'on prend, qui est la plus efficace pour ça. Alors, c'est un nom que vous ne connaissez pas, ça s'appelle un adeno-associated virus, un AAV, AAV. Hein. Vous ne le connaissez pas parce que c'est un virus qui est responsable d'un rhume, d'une forme de rhume, bon, de petites choses assez banales chez nous. Et qu'on a trouvé qui était un tout petit virus, et du coup, ça nous permet d'en produire des quantités absolument énormes. Après, encore une fois, l'avoir désarmé, parce qu'il ne s'agit pas d'introduire des virus, même lorsqu'ils ne produisent qu'un rhume naturellement, lorsqu'ils sont dans l'atmosphère, si on les injecte dans un organe, ils peuvent provoquer autre chose. Donc là, on va directement prendre ce virus qui porte maintenant le gène thérapeutique, puisqu'on l'a désarmé et qu'on a introduit le gène thérapeutique, on va le mettre là et on va l'injecter directement chez le malade. Donc la différence entre les deux, c'est ça. Ici, c'est en direct le virus qui va chez le malade. Ici, c'est de façon indirecte. Le virus va dans des cellules en laboratoire et c'est les cellules qui sont injectées. Alors, d'accord. Bien débranché. D'accord. D'accord. Donc, je repars. Là-dessus. Si j'y arrive. Vous allez maintenant entendre donc une explication qui est assez didactique, une explication de quelques minutes sur la façon d'opérer de la thérapie génique, et après je reprendrai la main pour vous raconter ce qui se passe en ce moment. Alors, ça veut bien démarrer. Du moins, c'est ce qu'on espère. Alors, c'est l'explication pour amener au fait que, après tout un tas d'essais qui ont été faits pour mieux désarmer les virus, pour trouver les bons virus, ceux qu'on pouvait utiliser, pour ensuite les tester en laboratoire, et puis ensuite avancer vers des essais chez l'animal, on a fini par faire un certain nombre d'essais chez l'homme. Voilà. Alors, on a fini par faire un certain nombre d'essais chez l'homme, après avoir sélectionné donc les virus, voilà l'antivirus, donc j'en ai parlé, l'adéno, l'AAV, qui est un autre virus. On a testé aussi d'autres techniques, hein, des techniques qui s'appuyaient par exemple sur des constructions chimiques un peu particulières, qui avaient l'avantage de ne pas être virales, on n'avait pas besoin de se débarrasser de la toxicité des virus, ou de leur pathogénicité, hein, mais qui en même temps étaient beaucoup moins efficaces en quantité. Or, on s'est rendu compte très vite, au début des années 90, lorsque ces études se sont largement développées, on s'est rendu compte qu'un des premiers obstacles qu'on avait, c'était un obstacle de quantité. Alors, c'est relativement évident quand on y pense, mais il faut y encore y penser. Hein. Un virus désarmé, c'est par définition un virus qu'on prive de la capacité de proliférer. Comme on prive le virus de la capacité de proliférer, ben, en gros, on ne va pouvoir infecter que au maximum le nombre de cellules correspondant au nombre de virus qu'on injecte. C'est un virus à un coup, au lieu d'être en constante prolifération et donc de devenir un virus à un million de coups, un milliard de coups, comme le virus du sida ou d'autres. Donc, il a fallu imaginer, étant donné le nombre de cellules dans lesquelles il va falloir introduire ce gène, des moyens de production qui sont des moyens de production qui permettent la création de quantités considérables de particules virales. Et là-dessus, dès qu'il y a un problème d'efficacité, et c'est ce qui arrivait avec les composés chimiques, eh ben, on était obligé de d'écarter cette voie, même si pour d'autres raisons, elle aurait pu paraître intéressante. Il nous fallait des techniques qui nous permettent d'assurer la qualité du transfert et la quantité de cellules cibles pour la thérapie génique. Alors, on a eu un essai en grandeur nature, c'était pas chez l'homme. Il se trouve que le premier essai de thérapie génique en grandeur nature a concerné la lutte contre la rage. On a pu, grâce à un transfert de gènes, assurer l'élimination en fait des animaux, des renards en particulier, qui étaient atteints de la rage. Il y avait un système de déclenchement qui faisait que ces animaux disparaissaient. Et ça a été une campagne qui a été extrêmement efficace parce que on a trouvé le moyen, grâce à d'autres virus d'ailleurs qui pénétraient mieux chez les renards par la voie digestive, on a été capable de leur faire avaler des vecteurs de thérapie génique et on a abouti à un recul très significatif de la rage. Vous voyez, la rage 1989, la rage 1997, on n'est plus du tout sur les mêmes zones de dispersion et ça, c'était un résultat de thérapie génique. Alors, on n'en parle pas beaucoup, du moins, on ne le met pas forcément en avant pour des tas de raisons et en particulier le fait que ça concerne des animaux, ça ne concerne pas des humains. C'est une technique de transfert de gènes qui n'était pas applicable à l'être humain comme ça. Mais ça montre la puissance qu'on peut obtenir avec ce type de procédé lorsqu'il est bien ciblé et bien introduit. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé chez l'homme? Alors, chez l'homme, en fait, on est allé avec la thérapie génique, les scientifiques sont allés très tôt chez l'homme en essai clinique. Qu'est-ce que c'est qu'un essai clinique? Ben, un essai clinique, c'est vous avez un malade, deux malades, trois malades, et puis vous élaborez un protocole, c'est presque une expérience de laboratoire, mais faite avec des malades qui évidemment sont des volontaires, qui sont atteints de pathologies extrêmement graves contre lesquelles on ne peut rien, et auxquels on propose un essai, en leur expliquant que on a très peu de chance, voire pas de chance quasiment, de les traiter, mais que s'ils veulent bien, dans la mesure où il n'y a rien à leur proposer, ils peuvent, d'une certaine façon, servir la communauté en nous aidant à mettre au point un traitement. Alors, ces essais ont commencé très tôt. En réalité, bon, ici, ça c'était de l'ère pré-thérapie génique. Hein. Ça a été une tentative, d'ailleurs, à complètement avorter, mais qui n'était pas faite dans de bonnes conditions. À partir de là, on commence à avoir des essais qui, effectivement, pourraient être de l'ère pré-moderne, c'est-à-dire d'une ère dans laquelle on commence à travailler réellement sur les vecteurs viraux. C'était aux États-Unis. Et à ce moment-là, Martin Klein utilisait un virus qui permettait le transfert de gènes au travers d'un virus qui était désarmé partiellement à partir du virus herpès. Bon, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché et en plus, bon, il se trouve que Martin Klein n'a pas exactement fait les protocoles comme il fallait, il n'a pas demandé les autorisations comme il fallait. Bref, il s'est fait tirer au bazooka. À ce moment-là, il s'est fait écarter largement par la communauté, avec raison, hein, c'est-à-dire que bon, il y avait vraiment des trucs qu'il n'avait pas respectés, mais ça a jeté un froid sur la thérapie génique. On a pendant des années pensé que on n'était pas vraiment au point, jusqu'à ce qu'arrive French Anderson, ici, un autre Américain, qui lui a fait le premier test positif dans une maladie génétique, qui est une maladie qui permet une thérapie génique ex vivo. Donc vous vous souvenez, on prend les cellules chez le patient, on les prend au laboratoire, on les modifie, puis on les réinjecte chez le patient. Il avait parmi ses outils ce qu'on appelle un rétrovirus, qui n'était pas encore le virus du sida, qui lui aussi est un rétrovirus, qui était un virus de génération précédente. Hein, et il a réussi à obtenir chez cette patiente qu'il a traitée, il a réussi à obtenir la réapparition d'une enzyme qui manquait dans l'organisme de cette patiente et qui provoquait cette maladie qui allait aboutir à la mort. C'est ce qu'on appelle un déficit en adénosine désaminase. Bon, il a réussi à obtenir une production. La production a été insuffisante, la patiente a fini par décéder, mais c'était la première démonstration qu'on pouvait effectivement, c'était en 90, on pouvait effectivement aller dans cette voie. Alors, ce qui s'est passé après, c'est une histoire qui... qu'est-ce qui se passe? Non, il n'y a pas encore le film. Je le remettrai. Voilà. C'est une histoire qui ressemble finalement à la plupart des grandes histoires médicales. C'est-à-dire qu'il y a, sur la base des premiers résultats positifs, un engouement considérable. Et puis ensuite, sur la base de résultats négatifs ou partiels ou insuffisants, éventuellement d'accidents, il y a une chute brutale. Et puis ensuite, sur ces chutes brutales, il y a quelques très bonnes équipes qui continuent à travailler et qui vont amener les améliorations nécessaires pour reprendre la progression et aboutir finalement à quelque chose de mature. C'est exactement ce qui s'est passé avec la thérapie génique. C'était exactement ce qui s'était passé auparavant avec ce qu'on appelle les anticorps thérapeutiques qui aujourd'hui sont en clinique. Hein, lorsque vous avez une polyarthrite rhumatoïde qui arrive sans doute à quelqu'un entre vous, on vous donne des protéines thérapeutiques. Pour la sclérose en plaques, on donne des protéines thérapeutiques. Ces protéines thérapeutiques, ça a été avec 10 ans de décalage, c'était 10 ans avant la thérapie génique, exactement le même schéma au début de l'engouement. Un effondrement sur la base des premiers essais qui ne fonctionnaient pas, et puis ensuite un travail de fond qui aboutit maintenant à des traitements qui sont mis à la disposition de tout le monde. Pareil avec la thérapie génique, les années 90, au début des années 90, je dois avouer que j'en étais aussi, on faisait tous de la thérapie génique. On a tous fait des superbes papiers, j'en ai fait quelques-uns, avec Axel Kahn en particulier, hein, on travaillait ensemble, et on a fait quelques très beaux papiers qui montraient que c'était génial. On a même signé un papier dont je ne suis pas très fier, mais au bout du compte, parce qu'il était un peu prématuré avec Axel, qui s'appelait l'ADN médicament. Comme s'il suffisait de travailler sur l'ADN pour aboutir à un traitement. Bon, c'était le début des années 90, le grand engouement, Et puis, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que sur la base de cet engouement, on y reviendra à la fin de mon propos, il y a eu un engouement financier. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a eu énormément d'argent aux États-Unis qui a été canalisé vers la production de produits de thérapie génique. C'était à qui serait le premier à décrocher la timbale pour gagner les milliards de dollars qui devaient obligatoirement arriver. Et il y a eu des centaines, littéralement des centaines de petites entreprises qui se sont créées. C'est un petit peu comme la bulle informatique à d'autres moments dans la Silicon Valley. Hein, il y a eu des centaines d'entreprises qui se sont créées avec un objectif essentiel, traiter le cancer. C'était évident que si la thérapie génique était capable de traiter le cancer ou de traiter certains cancers, c'était la timbale et il y aurait au bout du compte beaucoup d'argent pour les gens qui avaient investi. Bon, ça s'est pas passé comme ça, les quelques centaines de boîtes ont disparu, tout simplement parce que, et puis les gens qui avaient investi ont mis leur argent ailleurs, dans les armements ou dans le pétrole. Hein, ils ont donc retiré l'argent. Et à partir de 95, ça a été très vite, hein, à partir de 95, il y a eu un grand mouvement de recul sur lequel sont restées quelques très grandes équipes qui ont continué un travail de fond en thérapie génique, avec évidemment pas du tout les mêmes moyens que ce qu'on avait eu entre 90 et 95, parce que les financiers s'étaient retirés, mais avec des moyens académiques et des moyens caritatifs. C'est à ce moment-là qu'en France, l'AFM, donc le Téléthon, est devenu le premier, le principal financeur de toutes ces recherches sur la thérapie génique et est donc directement responsable, il faut le dire, des succès qu'un certain nombre d'équipes françaises ont pu obtenir en thérapie génique. S'ils n'avaient pas été là, ce n'était pas l'État français qui finançait les labos à la hauteur qu'il fallait pour faire ce genre de travail. Alors, les résultats, vous en connaissez quelques-uns parce qu'ils ont fait vraiment la une de la presse. Donc, vous avez le traitement de la désine des aminases qui a été positif. Finalement, vous vous souvenez, au départ, il y avait une patiente qui était insuffisante. On a réussi à le faire fonctionner. Et puis, il y a eu surtout le traitement des bébés bulles par Alain Fichet et son équipe à l'hôpital Necker. Avec, donc ça c'était vraiment le premier succès, la première démonstration qu'on pouvait, sinon se débarrasser d'une maladie, du moins traiter la plupart des patients à l'aide d'une thérapie génique, et c'était en 2000. Donc, en 2000, un petit coup au moins d'éclairage, de projecteur de nouveau sur la thérapie génique, et puis sur la base d'un travail de fond qui s'opérait. Il s'opérait d'autant plus d'ailleurs dans quelques grandes équipes scientifiques qu'on s'est rendu compte à ce moment-là, enfin 2 ans plus tard, que certains des patients, 2 en fait, des patients sur 9, traités par Alain et son équipe, développaient un effet secondaire qui pouvait être extrêmement grave de la thérapie génique. Cet effet secondaire, c'était une leucémie. Leucémie qui était liée au fait qu'on avait fait une thérapie génique sur les cellules de leur système immunitaire et qu'on avait du coup sélectionné certaines cellules qu'on avait protégées contre la maladie, c'était l'ISKID, hein, alors que les autres disparaissaient, mais du coup en les protégeant, on leur donnait une capacité qui était une capacité anormale de prolifération. Donc il y avait 2 patients qui ont été victimes de leucémie, un qui est mort, malheureusement l'autre a été traité, hein, mais ça voulait dire qu'il y avait encore du travail de recherche à faire. Et ce travail a de nouveau été fait dans quelques grandes équipes internationales. D'ailleurs, Alain est allé chercher des équipes en Allemagne, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, etc., pour l'aider à refaire l'ensemble de son étude pour aboutir à quelque chose qui soit en même temps efficace et sûr. Et en réalité, il a abouti à quelque chose, puisque il y a quelques mois maintenant un grand papier, la plus grande revue. International de médecine expérimentale, le New England Journal of Medicine, de l'équipe d'Alain avec tous ses collaborateurs internationaux, montrant que dans un nouvel essai clinique, beaucoup plus large que le premier, et avec les nouveaux vecteurs de thérapie génique qu'il avait développés, les nouvelles techniques beaucoup plus sûres, eh bien il aboutissait à un vrai traitement du ISKID, un vrai traitement donc de cette pathologie mortelle. C'était les bébés bulles, c'était les bébés qui vivaient dans une bulle parce que en n'ayant pas de système immunitaire, ils ne pouvaient pas se défendre contre toutes les saletés qu'on a autour de nous. Et du coup, dès la naissance, ils faisaient infection sur infection, et en 2 ans, 3 ans, ils mouraient de ces infections. On pouvait les protéger, et encore que partiellement, parce qu'on les mettait dans une bulle complètement stérile, enfermée, au travers de laquelle, enfin, au travers des parois de laquelle les parents pouvaient juste les prendre comme ça de loin. Ils étaient voués à une mort extrêmement rapide. Maintenant, ils vivent. Donc, un vrai succès, et un succès qui a ouvert la voie à un certain nombre d'autres. Alors, là-dedans, quelles sont les pistes et quelle est la façon dont on travaille pour que ce succès qui ouvre la voie à d'autres ouvre réellement la voie à des traitements sur différentes pathologies, des pathologies génétiques ou d'autres pathologies. Enfin, en gros, le travail est toujours à peu près identique. Il faut qu'on connaisse bien la maladie, il faut qu'on connaisse les raisons pour lesquelles un système fonctionne mal, que ça soit la rétine, pour les gens qui deviennent aveugles du fait d'une pathologie génétique de la rétine, que ça soit les muscles pour une myopathie, que ce soit un cœur pour une cardiomyopathie, que ce soit le système immunitaire pour les déficits immunitaires. Bref, il faut connaître la maladie, connaître la mutation, savoir quel gène il va falloir réintroduire pour que ça puisse fonctionner. C'est un travail de recherche extrêmement long, compliqué, dans lequel on croit souvent avoir abouti à un vrai résultat, jusqu'au moment où une autre équipe montre que le résultat n'était que partiel. Il faut revenir à la paillasse pour recomprendre d'autres mécanismes. Bref, tout ça, il ne faut pas imaginer que c'est simplement on tire une carte et on voit le gène et on peut y aller. Il faut vraiment comprendre tout ce qui se passe. Ensuite, il faut s'appuyer sur des gens qui, par ailleurs, développent les vecteurs de thérapie génique et les produisent en quantité suffisante. Je vous ai déjà dit qu'il y avait cet aspect quantitatif dans la thérapie génique qui est vraiment extrêmement important. Pour vous donner un exemple, pour traiter un enfant myopathe, un enfant qui peut peser 35 ou 40 kg au moment où on va lui injecter produit de thérapie génique, donc pour introduire un gène dans les muscles pour l'ensemble de son corps, on a calculé qu'il fallait entre 10 puissance 16 et 10 puissance 17 vecteurs AAV, qui est le vecteur le plus efficace pour traiter la myopathie. Alors 10 puissance 16 ou 10 puissance 17, je ne sais même pas si ça a un nom, tellement c'est énorme. Bon. Et ça, c'est par patient. C'est-à-dire, si vous traitez 100 patients, il faut encore mettre 2 zéros au bout. Et des patients atteints de myopathie, dans le monde, il y en a 325 000. Donc, vous comptez le nombre de vecteurs qu'il faut produire. Et il y a chez nous, parmi les gens qui travaillent là-dessus, des ingénieurs qui travaillent justement sur ces systèmes de production, qui un jour ont montré que s'ils produisaient les vecteurs comme ils les produisaient il y a 2 ans, c'est-à-dire avec les technologies d'il y a 2 ans, il leur faudrait pour traiter un patient atteint de myopathie un immeuble de 20 étages de haut de petites boîtes de pétri ou de flasques, ça ressemble à des boîtes de pétri, dans lesquelles ils produisaient les vecteurs viraux. Il a fallu qu'ils changent complètement de technologie pour réduire les choses à, en gros, la taille d'une girafe. Voilà. En empilant simplement leur boîte. Donc, c'est vraiment quelque chose qui pose problème. Je montrerai un petit peu un outil, comme ça, en passant, sur lequel on fait ça. Alors, un des organes qui attire énormément l'attention, c'est l'œil. L'œil, parce que l'œil, d'abord, c'est entre 150 et 200 maladies génétiques qui amènent à la cécité, ce qu'on appelle des rétinites pigmentaires. C'est-à-dire 150 à 200 pathologies qui chacune touche très peu de patients. Il y en a une sur laquelle moi je travaille, il y a 2 patients en France, donc c'est évidemment chacune de ces pathologies des choses extrêmement rares, mais mises ensemble, ça représente quand même presque 15 000 personnes en France. Donc, ça représente un vrai problème de santé publique. 15 000 personnes, c'est pas rien. Et puis, c'est des personnes qui vont naître avec la vue et puis qui, progressivement, à partir d'un certain moment, vont se retrouver avec un cercle qui diminue pour ne plus concerner que le centre vraiment de vision, Il y a un gamin qui, au Téléthon, racontait ça, un gamin de 10 ans, et qui racontait ça en disant « j'ai l'impression de voir au travers d'une paille bon. ». Et puis la paille, elle se bouche à un moment donné. Donc c'est vraiment une pathologie extrêmement grave qui est liée à ces 150 ou 200 défauts génétiques. Et, alors, il y a un intérêt scientifique, technique, à s'attaquer aux pathologies de la rétine, c'est que l'œil, c'est un monde clos dans lequel on peut injecter des produits qui vont rester dans l'œil, qui vont rester et qui vont pouvoir donc être injectés en quantité un peu moindre hein, que lorsqu'on met ça dans le sang ou dans l'ensemble de l'individu, hein, et n'introduire le gène que dans les cellules qui sont concernées, qui sont les cellules de la rétine. Alors il y a eu tout un tas d'études faites en particulier sur une pathologie qui, vous voyez, ces différents gènes qui font perdre la vue, là, GUCD2, CRB1, etc. Il y a eu pas mal d'études sur des malades atteints d'un déficit dans cette protéine qui s'appelle RPE65. Hein, et RPE65, bah, lorsque RPE65 disparaît, ici vous avez une rétine saine. Vous voyez, il y a une grande couche ici, avec des noyaux qu'on voit bien en brun. Il y a une couche ici, qui est ce qu'on appelle la couche des photorécepteurs. Et puis, vous avez ici une limite de la rétine, qui est une limite franche en une seule couche. Lorsque RPE est muté, vous allez avoir une disparition de la couche des photorécepteurs. Et du coup, la rétine s'affaisse. Sauf que les photorécepteurs, c'est les cellules qui, dans la rétine, reçoivent les photons, reçoivent le message visuel et transforment ce message de telle façon à ce que les neurones qui sont à côté puissent envoyer les messages jusqu'au cerveau. Pas de photorécepteurs, pas de passage de lumière, rien. Donc, perte de la vue. Alors, comment faire pour s'attaquer à ça? Plusieurs équipes, dont une équipe française qui est à Nantes, autour de Fabienne Rolling, hein, est allé administrer des virus AAV dans la rétine pour toucher les cellules qui sont les cellules noires que vous avez vues dans l'image que je montrais auparavant, qui sont les cellules de la couche franchement externe ici, qui vont apporter aux photorécepteurs qui sont ici tout ce qu'il leur faut pour persister au cours du corps. Et on a des résultats qui, sur le plan histologique, sont très nets. Hein, vous voyez un chien non traité, bah vous n'avez plus la couche rouge. Ici, vous avez la couche rouge qui ressemble à la normale. Hein. Ce n'est pas la peine d'être un grand biologiste pour voir la différence. Hein. Et puis, il y a toute une récupération de la vie. Alors, ils ont testé ça. Il se trouve qu'il y a des chiens qui ont exactement la même maladie. Ils ont exactement le même déficit et ils perdent la vie. Des chiens briards, très mignons, hein, très beaux chiens. Et il se trouve que... génétiquement, ils ont une susceptibilité particulière et donc ils ont cette maladie génétique qui se transmet dans un certain nombre de ces familles de chiens avec un déficit en RPE65. Et donc on est allé regarder ces chiens, on leur a administré les vecteurs et ça a donné effectivement des résultats. Avec un petit peu de chance, ça va accepter de démarrer, sinon... Je ferai démarrer. Ça ne démarre pas. Donc, je retourne. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Ces chiens. Et là, en réalité, j'ai plus besoin du tout. Ça va être très bien. Alors, ce que vous voyez là, c'est un chien aveugle. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on lui met des obstacles sur le chemin, et puis, comme il ne les voit pas, il se cogne dedans, hein, on l'appelle à l'autre bout, et puis, il se cogne. Voilà. Alors, c'est un test tout bête, hein, mais qui est très visuel. Alors, ça, c'est l'opération, et puis, le même chien, on a opéré un œil, et vous voyez qu'il évite systématiquement les obstacles. Et en fait, on a opéré un œil, ce qui nous permet de faire un test de contrôle, c'est-à-dire que quand on lui ferme l'œil qui a été traité, eh ben, il se cogne de nouveau dans les obstacles. Quand on lui ferme l'œil qui qui est toujours malade, eh ben, il voit avec son œil très tôt. Voilà, c'est le type d'expérience. Là, je vous montre en trois images, ça prend 2 ans de boulot. Hein. C'est évidemment quelque chose qui nécessite des équipes extrêmement larges. Il se trouve que le laboratoire de Nantes, un laboratoire soutenu par le Téléthon très directement, donc qui bénéficie de moyens qui sont des moyens particuliers. Il y a aussi à Nantes l'appui d'une école vétérinaire dans laquelle il y a des spécialistes de ces chiens, qui les avaient trouvés d'ailleurs, hein, et qui peuvent les entretenir, avoir un suivi extrêmement régulier. Et puis il y a tout un tas d'études qui sont faites chez ces chiens pendant toute la durée de l'expérience, et ça a duré, ils ont gardé les chiens pendant 1 an après l'intervention pour voir comment ça évoluait. Et pendant 1 an, bah, on leur a fait des tests visuels pour voir comment ils répondaient à la lumière. Donc il y a eu une progression d'une stabilisation. Également des études d'imagerie, de tomographie pour aller voir chez le chien éveillé, hein, enfin chez le chien en tout cas, pas éveillé, mais vivant, voir l'épaisseur de sa rétine, voir comment elle était construite. Hein, on peut faire ça, on fait ça chez les hommes, hein, on fait ça aussi chez les chiens. Et effectivement, la thérapie génique a un effet positif sur ces chiens par la récupération des RPE65. Du coup, il y a eu des études chez l'homme, il y a eu des essais cliniques. Il y en a eu un qui a été lancé aux États-Unis, il y en a eu un qui a été lancé en France. Et les résultats de ces essais ont abouti à la même chose, qui était que effectivement, il y avait une certaine récupération. On est face à une maladie qui est évolutive, on n'intervient pas tout au début parce qu'on ne la détecte pas, et puis on est chez le nourrisson, hein. On intervient lorsque les malades ont déjà commencé à évoluer, et la thérapie génique qui est faite à ce moment-là doit évidemment contrecarrer l'effet de l'évolution, mais ne peut pas revenir en arrière. Là où il n'y a plus de cellules, on ne peut pas réinjecter de l'ADN. Vraiment un point de base pour la thérapie génique. Il faut qu'il y ait des cellules à sauver. Lorsqu'elles ont déjà dégénéré, on ne peut plus les récupérer. Donc, on va se retrouver face à des patients qui ont des améliorations qui sont essentiellement dans le sens d'une stabilisation de l'évolution par rapport à une évolution descendante, hein, mais chez lesquels il n'y aura pas un résultat spectaculaire, il y aura une récupération complète de la vision, c'est pas exactement ce qu'on attend. C'est déjà pas mal de stabiliser une évolution vers une cécité lorsque les malades ne sont pas encore avec. Alors, je reviens sur ma projection. Voilà. Alors, autre exemple que je vous apporte sur la myopathie. Alors, je voulais apporter parce que justement la myopathie, c'est l'exemple complètement inverse d'une maladie dans laquelle on vise non pas un organe qui est un organe clos, hein, mais l'ensemble du corps, et on essaye de traiter tous les muscles. Et en fait, si on n'arrive pas à traiter tous les muscles, et souvent cœur compris, hein, pas toutes les myopathies, mais dans certaines myopathies c'est comme ça, si on n'arrive pas à traiter l'ensemble des muscles et le cœur, le patient, il ne va pas véritablement bénéficier, en tout cas considérablement, de la thérapie génique. Là, le problème, c'est donc d'amener le vecteur partout. On n'a qu'un seul moyen, c'est de l'injecter dans le sang. Et là, espérer que ce vecteur qu'on va injecter dans la circulation sanguine va circuler partout, atteindre les fibres musculaires partout, rentrer dans les fibres musculaires et faire son office. Ce qui veut dire que, évidemment, il faut avoir des vecteurs qui sont particulièrement propre dans le sens où on va le mettre partout, il va aller partout, donc pas seulement dans les muscles. Donc il ne faut pas que ça soit délétère ailleurs que dans les muscles. Hein. Quand vous introduisez un gène en surexpression qui doit aller dans le muscle mais que vous le mettez dans la peau, vous risquez des problèmes. Hein, et c'est vrai pour tous les autres organes, le foie, la rate, les poumons, etc. Donc il faut avoir des vecteurs qui soient particulièrement propres. Et puis l'autre chose, il faut des quantités énormes de vecteurs. Alors, en ce qui concerne la myopathie, là encore, on a, entre guillemets, c'est pas vrai pour eux, mais pour nous, c'est une chance, on a la chance d'avoir des chiens qui, spontanément, développent une myopathie du chêne. Ce sont des chiens qu'on appelle des chiens GRMD, et ces chiens GRND, c'est une mutation spontanée, plusieurs mutations spontanées qui aboutissent à des familles de chiens qui présentent une myopathie qui ressemble totalement à la myopathie du chêne, qui touche exactement la même protéine et qui aboutit au même désordre et qui aboutit à la même limitation de la durée de vie. C'est-à-dire que ce sont des chiens qui ne vont survivre que pendant 6, 8, 10 mois après la naissance, alors que le chien il peut vivre évidemment beaucoup plus longtemps. Alors, je vais vous montrer, alors c'est des images qui ont été un petit peu choisies pour ne pas être trop choquantes, hein, un chien GRMD qui est complètement atteint par la myopathie, il ne marche pratiquement plus, voire il ne marche plus, il reste couché, il se traîne et tout, il n'a pas de fauteuil roulant lui. Le choix a été fait de ne pas montrer forcément le chien à ce stade-là, c'est pas fait pour choquer, c'est fait pour vous montrer la différence entre un chien qui a reçu un traitement et qui donc a de la dystrophine dans ses muscles et un chien qui n'a pas été traité exactement de la même portée, en fait c'est les mêmes chiens, hein, qui n'a pas été traité par, même s'il ne se ressemble pas parce que celui-là est noir et celui-là est marron, mais qui n'a pas été traité par la thérapie génique. Alors je vais vous montrer d'abord le chien donc, qui n'a pas été traité. Essayons de nouveau de lancer le fil. Non, c'est vraiment pas possible. Donc, je vais reprendre mes lunettes et repasser. Sur les fibres. Voilà. Voilà. Donc c'est un chien qui là est encore, comme on dit, ambulant, un chien très jeune, hein, mais vous voyez, il a les pattes franchement à plat, il est très lent pour un chien, il a la tête basse, il se traîne. Bon, c'est un chien qui se traîne. Voilà. Alors maintenant, chien traité. Et ce chien, donc, et quelques autres, non seulement a un comportement normal, hein, un comportement de chien, enfin je crois, je ne suis pas très chien, mais en plus, il a une durée de vie qui, jusqu'à présent en tout cas, est normale. Donc, là encore, on a une thérapie génique qui démontre son efficacité, et qui va être testé à partir de l'année prochaine chez l'homme. Pourquoi à partir de l'année prochaine? Pour les raisons que je vous donnais, de quantité de production. Je vous ai dit, il y a 2 ans, les ingénieurs étaient incapables, en réalité, de produire la quantité de vecteurs nécessaires pour traiter un patient. Maintenant, ils sont capables, donc il va y avoir ces essais cliniques à partir des productions de génétons biotopes, donc AEBRI, hein, capables de produire ces 10 puissance 17 vecteurs AAV nécessaire pour le traitement en essai clinique d'une dizaine de patients. Hein, je vous ai dit, on a 325 000 à traiter, mais là on est à une dizaine de patients. Il va falloir encore faire quelques sauts technologiques pour aboutir à un vrai traitement qu'on puisse donner si effectivement ce qu'on espère, ce qu'on a vu chez le chien, se reproduit chez l'homme. Et donc on a réellement une démonstration de la thérapie. Alors, je vais vous donner juste une image. Alors là, c'est, j'ai pas pris une image humaine, mais c'est juste pour en parler. En parallèle, je vous ai parlé de maladies génétiques. En parallèle, il y a des études sur des maladies qui ne sont pas des maladies génétiques, pour lesquelles il ne s'agit pas d'introduire un gène pour corriger un défaut dans l'ADN. Il s'agit d'introduire un gène qui code pour une protéine qui, pour une raison ou pour une autre, va avoir un effet de médicament. Bon. Et c'est en particulier le cas pour la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson, c'est une maladie, vous connaissez tous, c'est une maladie neurologique, neuro, comme on dit, dégénérative, qui atteint les personnes âgées, la plupart du temps, pas seulement, hein, et qui va provoquer des troubles moteurs, une rigidité, anxiété, un tremblement, un affaiblissement général et tout. Il y a beaucoup de monde atteint, hein. Il y a presque 100 000 personnes en France qui sont atteintes de la maladie de Parkinson. Donc une maladie fréquente et une maladie qui n'est pas d'origine génétique. Pour l'essentiel, ça n'est pas une maladie d'origine génétique. Donc, qu'est-ce qu'on donne pour traiter la maladie de Parkinson? Ben, depuis maintenant presque une cinquantaine d'années, on a d'abord essayé, puis ensuite donné de façon large de la DOPA. Pourquoi? Parce que ce qui manque dans le cerveau des malades parkinsoniens, c'est une molécule qui s'appelle la dopamine. La dopamine, elle est produite naturellement par quelques centaines de milliers de neurones qui possèdent pour ça toute une machinerie enzymatique qui va leur permettre de produire la dopamine. Cette machinerie enzymatique disparaît avec les neurones qui dégénèrent. Donc on ne l'a plus dans le cerveau. L'idée qu'ont eu des chercheurs britanniques associés à une équipe française, à Créteil, à Mont-d'Or, ça a été de remettre l'ensemble de la machinerie enzymatique dans des neurones qui sont les neurones qui normalement reçoivent la dopamine. Ils ne la produisent pas, ils la reçoivent. Hein, et là, bah, on transforme ces neurones qui doivent avoir de la dopamine en producteurs de leur propre dopamine. C'est-à-dire, bon, bah, finalement, c'est ces cellules-là qu'on a besoin, et bah, on va leur faire produire en mettant la machinerie enzymatique dans ces neurones. Ils vont produire la dopamine. La dopamine va sortir des neurones et du coup va se retrouver à proximité de la membrane où elle doit agir. Hein, et ça va rectifier le système. On fait tout un tas d'études expérimentales, et notamment cette étude-là, qui est une étude chez le rat. Hein? Alors, la construction pour produire de la dopamine, bah, c'est ça, hein, c'est trois gènes en fait. C'est un gène ici, un gène là, un troisième gène là, qui code à chaque fois pour une partie de la machinerie enzymatique. Ils ont mis tout ça dans un vecteur. Un vecteur qui est un vecteur du type HIV, sauf qu'au lieu d'utiliser HIV, c'est-à-dire le virus humain, le virus qui infecte l'homme, ils ont utilisé l'équivalent, mais qui infecte le cheval. Bon, ça donne une façon d'assurer une sécurité parce que ce virus-là, chez l'homme, il se multiplie pas. Hein, le virus de cheval, il infecte les cellules humaines, mais il se multiplie pas dans les cellules humaines. Donc, c'était une façon d'assurer une sécurité supplémentaire et puis une façon pour les Britanniques qui avaient entre-temps construit une boîte de protéger leur propriété intellectuelle. Ils sont les seuls à le savoir le faire. Ce qui fait que si ça marche, ils vont gagner beaucoup de sous. Bon, alors, ce virus, il l'injecte donc dans un cerveau. Ici, vous voyez cette région du cerveau privée de dopamine, qui est toute pâle. Et ici, vous voyez, après l'administration de ce vecteur, et donc, ces cellules se sont mises à produire de la dopamine. C'est aussi bête que ça, hein, c'est pour ça que j'ai pris cette image, c'est une image de rat, hein, de cerveau de rat. Ils ont fait ça ensuite chez le singe, et ça, ça a été l'équipe française qui leur a amené, avec Stéphane Palfi, hein, qui a fait ça. Stéphane Palfi, qui lui est patron de la neurochirurgie de Mont-d'Or, il est passé chez l'homme et ils ont publié l'année dernière un superbe papier qui a fait énormément de bruit dans la communauté, dans lequel ils montraient qu'effectivement, on pouvait traiter des patients atteints de maladie de Parkinson au travers de cette thérapie génique. Thérapie génique d'apport de médicaments. Et là, ça permet de penser à des tas de maladies. Parce que des maladies dans lesquelles on pourrait amener une protéine médicament, il y en a effectivement beaucoup, et pas seulement des maladies génétiques, c'est vraiment une grande ouverture. Donc vous voyez, ça marche plutôt pas mal. Alors, non, il ne va pas pouvoir démarrer non plus, d'accord. Donc ça, je vais le laisser là. Et je vais vous faire démarrer comme ça, parce que c'est quand même joli. Les sauts technologiques dont je vous parlais, c'est essentiellement des sauts de robotique. Les sauts technologiques, ça a été au départ la compréhension du système, la manipulation des molécules d'ADN, la façon de désarmer les vecteurs viraux. Tout ça, c'était pour assurer la qualité du geste. Ensuite, il a fallu assurer la quantité. La quantité, on a amélioré les choses. On a un peu augmenté la taille de nos laboratoires, on a fait les choses, puis à un moment donné, on s'est dit, on n'y arrivera pas comme ça, on a fait rentrer les robots. Et les robots, c'est des robots industriels. c'est des robots comme un certain nombre d'entre vous peuvent reconnaître sur les chaînes sur lesquelles vous travaillez ou dans les usines dans lesquelles vous êtes. Hein, c'est véritablement des robots industriels. Ils ont la particularité de fonctionner dans des conditions de laboratoire. Donc, c'est des robots qui sont enfermés dans des zones confinées, bien protégées, dans lesquelles il n'y a pas de bactéries, il n'y a rien qui circule. Hein, bon, ça, c'est vrai. Mais autrement, c'est véritablement le même modèle. C'est des modèles industriels qu'on a importés dans les labos et puis qu'on met à disposition parce que, bah, évidemment, lorsqu'on travaille sur des flasques, par exemple, comme ça, ça c'est une flasque dans laquelle vous avez vu qu'il mettait du liquide et tout, bon, bah, on a un certain nombre de virus qu'on peut produire, la même chose pour des cellules d'ailleurs, nous on les utilise pour les cellules souches, hein, à produire des virus, hein. Sauf que bah, nous, quand on est nous-mêmes sur la paillasse, on va manipuler une de ces flasques, éventuellement deux, trois, cinq, et à un moment, bon, il faut aller déjeuner, quoi. Ça suffit. Bon, le robot, lui, il déjeune jamais. Enfin, en tout cas, on l'entretient, il mange en travaillant. Hein, et il va pouvoir travailler sur, par exemple, une centaine de ces flasques en parallèle. Puis il va travailler la nuit, il prend pas de RTT, il travaille le week-end. Enfin, bon, nous aussi, ça nous arrive de travailler le week-end. Mais lui, il continue en permanence. Et du coup, ça augmente considérablement les capacités de production. Et en plus, bah, un robot, à condition qu'on ait les moyens, lorsqu'on sait qu'il y en a un qui peut produire pour une centaine de flasques, on a besoin de 300 flasques, et ben on met trois robots en parallèle. Et on obtient les 300 flasques. Hein. Donc tout ça, c'est des constructions industrielles, et on est effectivement en thérapie génique, comme d'ailleurs en thérapie cellulaire, on est à l'ère industrielle. On est en train d'envisager, d'élaborer les usines dans lesquelles demain, on va produire ces traitements avec les premiers résultats cliniques qui montrent que ça vaut le coup et avec la nécessité dans laquelle on est de passer à l'ère industrielle, de passer à une ère qui dépasse considérablement le type de travail qu'on fait dans nos laboratoires. Aujourd'hui, on est en train de réfléchir très sérieusement, c'est-à-dire très sérieusement, ça veut dire aller chercher les sous, à Évry pour construire une de ces usines qui nous permettrait d'avoir à notre disposition les vecteurs de thérapie génique, pas seulement pour les essais cliniques chez 10 patients, mais vraiment pour le traitement de 10 000 ou 200 000 patients le jour où ça devra être mis à disposition des patients. Je reviens sur ma présentation pour dire que tout ça, c'était de la science-fiction il y a 10 ans. C'est au stade des essais et des résultats de ces essais aujourd'hui, ça a commencé à rentrer dans le domaine commercial. Alors, ça a commencé à rentrer dans le domaine commercial avec une première chose, alors là qui était vraiment extrêmement précoce, hein, c'est les Chinois. Le gouvernement chinois a autorisé un premier produit de thérapie génique qui a déjà plus de 5 ans maintenant, la gindicine, hein, qui est un adénovirus. Oui, ben, c'est fini. Donc, un adénovirus, donc un autre type de vecteur viraux pour traiter certaines tumeurs qui sont des tumeurs du cou. Alors, les laboratoires chinois avaient travaillé sur le sujet, les règles, les régulations administratives en Chine ne sont pas exactement aussi sévères qu'ailleurs. Le médicament est arrivé donc sur le marché, c'est une boîte qui produit en Chine là-bas, est arrivé sur le marché, a commencé à être utilisé par les hôpitaux. Il n'y a aucun autre pays dans lequel ce médicament ait été autorisé du fait d'un certain nombre de détails que nos collègues chinois avaient un peu oubliés à l'époque en termes de sécurité. Donc ça, c'est un début qui n'est pas négatif, hein, mais qui demande à être contrôlé. Ça, c'est autre chose, c'est un médicament pour une maladie génétique qui vient d'être autorisée en Europe. C'est une maladie génétique qui touche 200 malades, c'est la déficience en lipoprotéine lipase, hein, 200 malades en Europe, bon, ça n'est pas beaucoup, hein, et... ils ont trouvé, donc ils ont mis en place une thérapie génique, fait un essai clinique, obtenu des résultats on est un certain nombre à discuter. On ne pense pas que les effets si spectaculaires que ça, ça méritait une autorisation mise sur le marché. Mais comme c'était une boîte, qu'elle avait besoin d'un retour sur investissement, eh bien, elle s'est précipitée à l'agence du médicament à Londres et elle a obtenu une autorisation qui était partielle pour la mise de ce traitement sur le marché. Et aujourd'hui, il pose problème. C'est bien les trucs dont je vais vous parler. Il pose problème parce que ce traitement, pour la lipoprotéine lipase, la boîte qu'il fait, ça s'appelle Unicure, a décidé d'en demander 1 200 000 euros par patient. Le raisonnement était très simple. C'était, nous on a fait le travail, il y a 200 patients, ben, on demande à être remboursé de l'argent qu'on a mis dedans, et puis à gagner notre vie, et comme on est des capitalistes, on veut ça se voit, qu'on a réussi quelque chose, et donc ils ont en gros décidé de combien ils voulaient, et ils ont déterminé le prix en fonction de ça. Alors, il se trouve que comme l'autorisation de mise sur le marché par l'Agence du médicament européenne était conditionnelle et qu'ils ont un petit peu oublié les conditions, pour l'instant, les différents pays d'Europe qui sont chargés d'accepter ou pas de rembourser ce médicament ont commencé par le refuser. L'Allemagne avait accepté et puis ils sont revenus sur l'acceptation. La France vient de le refuser en mettant un SMR, c'est un service médical rendu à 4, ce qui exclut le médicament du remboursement, en attendant que les conditions soient remplies, elles ne seront vraisemblablement pas remplies. Bref, c'était un essai, mais un essai qui amène à se poser une question sur la façon dont aujourd'hui les financiers, les capitalistes en général, voient l'émergence de cette thérapie génique. Et effectivement, l'histoire d'Unicure, même si pour Unicure, vraisemblablement, ça ne va pas trop bien se terminer, hein, mais l'histoire d'Unicure, c'est une histoire qu'on voit se profiler, qu'on voit déjà exister partout dans le monde. Parce que de l'argent, il y en a. L'argent qui était investi en Grèce et qui a rapporté énormément avant qu'on mette la Grèce à genoux et tout, bah, les capitalistes, ils veulent l'investir. Et finalement, quand ils voient un système de ce genre dans lequel on peut mettre 1 million à l'entrée et en récupérer 100 3 ans plus tard, voire plus, ça les excite. Et donc, ils mettent en ce moment des capitaux, et des capitaux extrêmement lourds, dans ces sociétés de biotechnologie qui développent la thérapie génique. Alors, je vous ai mis ici quelques... ça c'était un gros titre du Figaro d'avril 2014. Ça s'est répété après. Ça, c'est un papier d'avril 2015. Donc, le secteur biotechnologique, il n'y a pas que la thérapie génique, mais je vous dirai après pour la thérapie génique, a cette année récupéré 14 milliards de dollars d'investissement. Sur ces 14 milliards de dollars d'investissement, il y en a 3,5 milliards dans la thérapie génique. Je rappelle, la thérapie génique, on est à l'heure des essais cliniques, les premiers résultats qui montrent que ça peut marcher. Les capitalistes sont déjà dedans massivement. Et lorsqu'ils sont dedans massivement, ils poussent. Ils poussent et ils poussent notamment les scientifiques à aller vite, ce qui peut vouloir dire mal, à aller dans les pathologies qui peuvent être les plus rentables, ce qui veut dire exclure les autres, avec des demandes de remboursement qui peuvent déséquilibrer complètement les économies de santé, parce que évidemment, d'une certaine façon, ils jouent sur du velours. Ils apportent, avec la thérapie génique, des traitements pour des maladies qu'on n'a pas. La lipoprotéine lipase deficiency, le truc de Unicure, 200 malades, c'est pas beaucoup. Et c'est 200 malades qui meurent. Ils n'ont pas de traitement. On ne peut pas faire autre chose que d'essayer de leur trouver un traitement. Et si quelqu'un arrive avec un traitement par thérapie génique qui fonctionne, le raisonnement des capitalistes, c'est on peut demander ce qu'on veut, puisque de toute façon, c'est la vie des gens qui est en cause. Donc, ce que fait Unicure, par exemple, Hollande en ce moment, c'est évidemment de faire écrire les associations de patients. Les patients s'adressent au gouvernement en disant, mais attendez, on a un médicament qui peut être efficace et vous ne voulez pas qu'on le prenne. C'est scandaleux. Et effectivement, c'est scandaleux. Sauf que c'est le système, lui, qui est pourri et qui fait que aujourd'hui, l'entrée massive du capitalisme déforme complètement ce qui, pour le reste, est une belle histoire scientifique et aujourd'hui médicale. Et ça amène à quelque chose qui risque en plus de faire exploser au moins partiellement, je ne sais pas si ça sera aussi violent que 2008, mais exploser le système en général, parce que à partir du moment où l'argent des premiers financeurs capitalistes, ce qu'on appelle les capitaux risqueurs, c'est des sociétés qui sont là pour mettre de l'argent qui peut rapporter très gros, mais en prenant des risques. Lorsque cet argent dépasse un certain montant, que des boîtes qui font de la thérapie génique se retrouvent alors qu'elles n'ont rien, elles n'ont pas de produits, elles ont fait une première démonstration chez un patient, chez deux patients, voire pas du tout, seulement chez le chien. Hein. Lorsque ces boîtes bénéficient d'un soutien, d'un investissement au départ de 150, voire de 300 millions de dollars, elles rentrent en bourse, et en bourse ça devient de la folie. Parce que les investisseurs qui sont autour, les petits investisseurs privés, voire d'autres qui sont un petit peu plus gros, les petits capitalistes qui essayent d'avoir le maximum de retour sur investissement, se disent, si cette boîte-là vient d'avoir 150 millions de la banque machin, 300 millions au moment où elle demande, c'est qu'il doit y avoir quelque chose, donc je veux ces actions. Et il faut monter les actions. Il faut monter les actions de telle façon que, par exemple, ici, Bluebird Bio, alors là c'est par mois, ouais, c'est par mois, c'est une échelle par mois, hein, c'est août, septembre, octobre, etc. Hein. Là c'est la valorisation boursière de Bluebird Bio, qui devait être à 40 millions ici, et puis vous voyez ce jour-là ils ont fait une annonce qui était une annonce scientifique, il y avait un truc qui avait marché, et vous voyez leur valeur qui triple simplement en une journée. Elle triple et puis elle continue à monter. Bluebird Bio, qui est rentré en bourse avec une valorisation de 300 millions de dollars, à un moment donné, maintenant ils sont un petit peu plus bas, atteint une valorisation boursière, hein, c'est pas leur valeur réelle, c'est une valorisation boursière de 3 milliards de dollars. Il y a un des gars, moi j'ai pas vérifié, mais il y a un des gars de Généton avec lequel je travaille, qui a dit, à certains moments, c'était la valorisation de Peugeot. Pour une boîte qui n'a rien, qui a simplement quelques idées, quelques résultats scientifiques, mais pas de produits. La valorisation boursière, c'était ça. Alors évidemment, qu'est-ce qui arrive ? Ben, il arrive l'inverse, ça. C'est-à-dire que le jour où la même boîte, alors là, c'est pas la même, c'est deux boîtes, Sarepta et Cosenza, qui sont des boîtes qui travaillent sur la myopathie du chêne, hein, et qui ont eu des échecs partiels, hein, mais elles étaient en bourse, hein, et puis leurs produits n'ont pas fonctionné aussi bien. Et bien vous voyez, en une journée, celle-là, qui est Sarepta, a perdu deux tiers de sa valeur. En une journée. Et en réalité, quand on dit une journée, c'est quelques fractions de seconde, parce que c'est déclenchement automatique d'abandon d'action par les actionnaires principaux. Et ça, ça c'est le modèle exact de ce qui s'est passé en 2008. Avec une chaîne, hein, il suffirait qu'à un moment donné, ça touche des gens qui ont revendu une part de ces actions pour s'assurer une assurance sur d'autres valeurs, etc., que éventuellement ça se conjugue avec une crise financière, par exemple, sur le remboursement des dettes des étudiants américains, ce que tout le monde attend, parce que les étudiants américains n'ont plus de boulot, sont incapables de rembourser leurs dettes, et ils doivent s'endetter lourdement pour faire leurs études. Tout le monde se demande à quel moment cette bulle-là va exploser. Hein. Donc il suffirait qu'il y ait, comme ça, une boîte qui s'effondre, hein, et qui jette un pavé dans la mare boursière pour que tout explose. Donc, cette bulle financière qui vient sur le dos de résultats scientifiques et médicaux, qui sont des vrais résultats, qui permettent effectivement d'envisager une évolution de la médecine, ça nous fait craindre une crise financière qui risque d'être du même ordre, voire supérieure à celle de Denis. Merci.
Avez-vous quelques questions?
Bonjour. Alors, c'est peut-être une question naïve, mais toutes les découvertes qui sont faites avec l'argent du Téléthon, j'espère qu'ils ne sont pas récupérés par les laboratoires et qu'elles ne bénéficient pas aux laboratoires pour qu'ils s'enrichissent après.
Alors, je ne vais pas parler au nom de la FM, hein, je ne suis pas dans la direction. Quand même. Il y a deux choses. La première chose, c'est que l'argent du Téléthon sert systématiquement à financer les recherches et le développement des équipes qui sont soutenues par le Téléthon. Ces équipes qui sont soutenues par le Téléthon, elles sont pour l'essentiel académiques. Elles sont en grande partie même directement rattachées, comme mon labo, hein, à la SM, au Téléthon. Hein. Elles peuvent aussi être des boîtes privées. Parce que Sarepta, par exemple, était une boîte qui, à un moment donné, a proposé une solution pour la myopathie du chêne qui paraissait intelligente, que la FM a décidé de soutenir parce qu'il demandait une subvention. Alors, ces boîtes privées, évidemment, lorsqu'elles acceptent une subvention, elles acceptent aussi, s'il y a un retour, de rendre l'argent à la FM avec un bénéfice sur, puisque elles sont des sociétés commerciales, avec une part du bénéfice qu'elles auront fait sur le produit. Du coup, lorsqu'on a vu émerger Unicure, les problèmes de prix explosifs des produits thérapeutiques, la FM a tout de suite pris une mesure qui a été, alors, dans le cadre des contrats qu'elle passe avec les sociétés privées, de faire signer un paragraphe qui s'appelle « Le prix juste est maîtrisé ». Alors, c'est des déclarations d'intention, tout le monde en est bien persuadé, les dirigeants de la FM comme les autres, mais c'est des déclarations d'intention qui, au moins, mettent l'accent sur le fait qu'on ne peut pas accepter que n'importe quel prix soit demandé pour un produit, et en particulier, lorsqu'on accepte l'argent du Téléthon, on doit s'engager à réfléchir à ce prix. Après, on n'a pas vu encore le résultat réel de ce que c'est. Mais en tout cas, immédiatement, ils ont commencé à faire signer ça, parce que l'objectif des gens de la FM, qui sont tous des parents ou des malades, c'est que les médicaments soient mis à disposition des patients. Eux, ce qui les intéresse, c'est ça. S'ils bossent, c'est pour ça. Mis à disposition des patients, ça veut dire qu'il soit trouvé, qu'il passe toutes les étapes, qu'il soit produit, et aujourd'hui ça veut dire produit par une société commerciale, hein, lorsqu'il y a besoin de mettre sur le marché, et qu'on puisse les payer. Donc, que les économies de santé puissent les prendre en charge, que ça ne pose pas des problèmes incommensurables, puisque ce n'est pas les patients qui vont se les payer directement, c'est la solidarité, et il faut que ça respecte les règles de vie commune, et là-dessus ils sont très très fermes, mais en même temps ils ne feront pas le socialisme sans nous.
Oui, bonjour, j'ai trouvé votre exposé très clair, hein. C'est vraiment pour une profane comme moi vraiment très intéressant. Alors à un moment vous nous parlez de ces vecteurs qui sont des vecteurs viraux, un virus, et vous nous dites in vivo et ex vivo. Bon, ça j'ai bien compris qu'on, d'une certaine manière, on faisait en sorte que le virus soit d'une certaine manière pas virulent, plus virulent, et qu'on introduisait à l'intérieur donc ce qui pouvait être thérapeutique. Mais alors ça c'est un truc pour moi qui me paraît tellement Je veux dire, un virus, c'est déjà, bon, on a du mal à se le représenter, mais c'est quand même incroyable, quoi, ça. Est-ce qu'on peut le faire? La question est complètement peut-être stupide. Non, mais la question, c'est comment, par quel moyen on peut arriver à faire ça? Et puis, ma deuxième question, c'est à propos de l'autorisation de mise sur le marché. Vous dites à un moment, il y a eu une autorisation de mise sur le marché qui était partielle. Ça, je savais pas que ça pouvait être possible. Et puis, la troisième, c'est des grandes questions très courtes, hein. C'est, sur le robot, là, que j'ai vu, qui est absolument, c'est phénoménal, quoi. Combien ça coûte?
Alors, pour répondre à la première question, en fait, un virus, c'est un morceau d'acide, soit désoxyribonucléique, soit ribonucléique, c'est-à-dire d'acide nucléique, hein, qui est emmagasiné avec autour une enveloppe, ce qui peut être plus ou moins complexe, et à l'intérieur, quelques protéines qui sont indispensables aux premières étapes d'entrée de ce morceau d'acide nucléique dans les cellules. C'est tout. Donc, ce que font les chercheurs, c'est de travailler sur l'acide nucléique du virus. Pour ça, il faut en même temps découper cet acide nucléique, retirer les mauvaises parties, ce qui en soi est déjà un travail assez important, et ensuite remplacer le système qui normalement permet au virus de proliférer pour pouvoir le produire en masse. Donc, on doit créer des cellules qui, elles, portent dans leur génome tout l'appareillage enzymatique nécessaire pour produire le virus, de façon à avoir ensuite la possibilité d'introduire le gène médicament dans un virus qui est produit par une cellule qui n'en meurt pas, mais qui produit le virus. Donc on est face à un système où, au lieu que ce soit le virus qui porte en lui-même la capacité de réplication, de prolifération, de production, hein, on met ça dans une cellule et on fait en sorte que les virus qui soient produits ne portent pas leur capacité de réplication. Alors, pour arriver à le faire ces plusieurs années, hein, pour désarmer un virus, ensuite, une fois qu'on a le système de production, tout le problème, c'est d'arriver à ce que ce système de production il soit de la qualité optimale et de la quantité optimale. La qualité optimale, ça veut dire qu'un système de ce genre-là, il va produire des virus qui vont être exactement ce qu'on veut, des vecteurs de produits de thérapie génique. Et puis, il va produire des vecteurs qui ne contiennent rien. Et puis, il va produire des bouts de vecteurs, c'est-à-dire que le système, il va être parasité, il va être contaminé. Et le problème, c'est que quand on démarre, ben, il produit 99% d'enveloppes vides ou qui ne sont pas fonctionnelles et 1% de ce qui nous intéresse. Donc le système, il est très peu efficace. Donc il va falloir modifier un certain nombre de choses pour que les cellules qui produisent le vecteur finissent par être très efficaces en qualité. Très efficaces, ça peut être 5%, ça peut être 15%, on dépasse rarement des chiffres de ce genre-là. Donc après, il faut assurer, pour qu'on ait la qualité, la filtration de ce qui est bon par rapport à ce qui n'est pas bon. Parce qu'on ne veut pas introduire chez le malade des enveloppes vides qui pourraient être toxiques et qui n'ont aucun intérêt puisqu'elles ne portent pas le gène médical. Donc ça, c'est pour assurer la qualité. Puis ensuite, il faut produire en quantité, parce que les cellules, quand elles produisent les vecteurs viraux, elles s'épuisent, elles finissent par disparaître. Et du coup, soit il faut en faire en permanence, en masse, et on travaille par exemple avec des bioréacteurs, qui sont des énormes cuves comme ça, de 200 litres, avec des cellules dedans, on fait mijoter pour qu'elles produisent des vecteurs viraux, et puis à un moment donné, on les sort, on supprime les cellules et on garde le reste et on essaye d'avoir les virus. Et demain, ça peut être 2000 litres pour avoir les quantités. Sauf que ça a quand même une limite, et que cette limite, ben, on préfère robotiser le maximum pour éviter de l'atteindre et éviter d'être trompé. Ben, produire dans 200 litres, c'est encore humainement envisageable. 2000 litres, ça commence à être des machines qui vont jusqu'au plafond, hein, au-dessus, c'est pas la peine de penser, quoi. Même dans un plan industriel. Alors, l'AMM partielle, en fait c'est une AMM conditionnelle qui faisait que l'agence du médicament ne donnait l'autorisation de mise sur le marché que pour une petite proportion de malades, même parmi les 200, il y en avait qu'une petite proportion, dans l'attente de certains résultats qui n'avaient pas encore été obtenus par l'entreprise Unicure et que l'agence du médicament européenne réclamait pour donner l'autorisation de mise sur le marché complète. Voilà, c'est donc partiel et conditionnel. Les conditions n'ont pas été remplies, donc voilà. Le prix du robot. Alors, le prix du robot, je dirais que le robot, vous avez vu, il coûte 800 000 euros. Bon, mais c'est pas ça le prix du robot. En réalité, le prix du robot, c'est l'élaboration qui est faite en amont, qui va coûter beaucoup plus que ça, de tous les processus qu'il va falloir mettre dans le robot. C'est les ingénieurs qui vont devoir maîtriser le robot et qui vont devoir le faire fonctionner. C'est l'informatique qu'on va devoir créer pour faire en sorte que ce robot, qui est un robot industriel, qui faisait tout à fait autre chose jusque-là, soit mis au service des productions dont on a besoin. Et puis ensuite, c'est tout l'entretien, toute la maintenance. Lorsqu'on dit 800 000 euros, ça veut dire 80 000 euros de maintenance obligatoire par an. Donc on est... c'est un truc, par exemple, nous on a... c'est pas celui-là, mais on a un autre robot qui coûte 1,2 million, qui nous permet de travailler sur les médicaments. Et il se trouve qu'on a obtenu ce robot avec des fonds qui nous étaient donnés par le Téléthon, mais également par le Conseil régional. Et du coup, comme c'était le Conseil régional, l'argent a été canalisé et c'est l'INSERM, l'Institut National de la Santé, donc le domaine public auquel j'appartiens, hein, qui a été le propriétaire du robot. C'est eux qui l'ont acheté parce qu'ils ont récupéré les subventions des deux côtés et ils ont acheté le robot. Du coup, ils en sont propriétaires. Ils n'ont pas mis un sou dedans, mais ils sont propriétaires. Bon. Donc, comme ils sont propriétaires, moi, à un moment donné, je me suis retourné vers eux en disant, bon, c'est bien gentil, mais moi, je dois payer la maintenance. C'est 100 000 euros par an. Ah non, on ne peut pas payer la maintenance. On n'a pas l'argent. Voilà. Donc, on est confronté à ce genre de situation dans le domaine public, académique, où finalement, on va chercher des moyens là où on peut les trouver, que ce soit le Téléthon, les agences diverses, européennes, internationales, ou les conseils, les collectivités locales, etc. Mais le fond de la recherche n'est pas assuré par le système. Et là, il y a un vrai problème.
Bonjour. J'aurais voulu savoir s'il y avait de la thérapie génique pour la maladie du prion. Parce que ce matin, j'étais à une conférence sur la maladie du prion. Alors, il a expliqué, alors ça s'est peut-être un peu mélangé, mais que la maladie de Parkinson, bon, Creutzfeldt-Jakob, c'était effectivement la maladie du prion, mais Alzheimer et Parkinson aussi. Et là, vous avez parlé de thérapie génique pour la maladie de Parkinson. Donc, ça commence un peu à se mélanger, en fait, dans ma tête.
Bon, les maladies à prion sont des maladies dans lesquelles les protéines se déforment et du coup, du fait de cette déformation, qui n'est pas une mutation, hein, forcément, au départ, ça peut arriver avec une mutation, mais en général, ce n'est pas une mutation, hein, cette déformation va provoquer leur agrégation, elles vont se rassembler dans des structures qui vont devenir toxiques pour les cellules dans lesquelles... En gros, le processus du prion, c'est ça. La thérapie chimique peut a priori rien contre ça. C'est-à-dire que ces mécanismes-là, en tout cas, je ne connais pas aujourd'hui de programme de thérapie chimique dans lesquels on se soit attaqué à ce type de mécanisme. En revanche, ce que j'ai raconté pour Parkinson, c'est comment on pouvait essayer d'amener un médicament, qui est un médicament qui fonctionne, la L2PA, autrement qu'en faisant prendre des comprimés à quelqu'un, en utilisant la thérapie génique, qui en réalité va éviter tout un tas de problèmes secondaires liés à la prise de ce médicament. Ce n'est pas seulement le fait de prendre des comprimés plusieurs fois par jour, c'est aussi que la L2PA, quand on la prend comme ça, elle provoque des pulses de dopamine, hein, ce qui n'est pas aussi bon que d'avoir une production stable de dopamine dans le cerveau. La thérapie génique permet une production stable de dopamine. Donc, en fait, il ne s'agit pas de s'attaquer à la cause, prion, il s'agit de s'attaquer aux conséquences la perte de dopamine.
Il me semble qu'il y a un aspect que vous n'avez pas abordé du tout dans la présentation.
C'est...
Non, mais qui m'a frappé, c'est la durée d'efficacité du traitement. Parce que vous injectez une fois, enfin, on a une première fois, et ça dure éternellement.
Alors.
Et une deuxième question. Comme c'est un agent étranger, le corps ne le rejette pas?
Excellente question. Les deux questions sont excellentes, sont des questions scientifiques. Hein. C'est évidemment des problèmes auxquels on est confronté. Pourquoi je vous ai parlé d'antivirus, donc virus du sida d'un côté et AAV? Ben, c'est finalement parce que le virus du sida, c'est un virus dont le programme génétique va s'intégrer réellement dans le génome. Quand je dis réellement, ça veut dire que l'ADN va être modifié dans la cellule par l'introduction d'un bout d'acide nucléique qui correspond au virus du sida et du coup à notre gène thérapeutique. Du coup, lorsque la cellule va proliférer, va se multiplier, la cellule qui a été modifiée génétiquement, eh bien, le gène médicament qui a été introduit va lui aussi se multiplier. Et les deux cellules qui naissent de la multiplication de la première vont être transduites, et donc il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de perte parce qu'à chaque fois qu'il va y avoir une division, finalement le gène médicament va être divisé de la même façon, et il va y avoir une multiplication des cellules qui sont améliorées. C'est pour ça qu'on fait ça par exemple avec des cellules sanguines, des lymphocytes, ou des cellules souches du sang, hein, qui sont des cellules qui prolifèrent très activement, hein, et qui vont gagner finalement la bataille lorsqu'on les aura réinjectées, parce qu'elles sont de meilleure qualité une fois qu'on leur a rendu des capacités complètes, elles vont gagner la bataille par rapport aux cellules du patient qui n'ont pas été modifiées et qui du coup sont moins efficaces, et donc il va y avoir un effet compétitif positif. Donc une seule fois doit suffire. L'AAV, c'est, je ne suis pas étendu dessus, un virus qui introduit le matériel génétique dans le noyau, mais pas dans les chromosomes. Dans ce cas-là, il n'y a pas de transmission à des cellules filles. Si on fait ça dans des cellules qui prolifèrent, eh bien les cellules filles ne vont posséder que pour l'une le produit de thérapie génique et pas l'autre. Et dès qu'on passe ensuite à la prolifération suivante, il n'y en a plus qu'une sur quatre, puis etc., etc. Bon. Du coup, l'AAV est utile lorsqu'on vise à transférer un gène dans des cellules qui ne prolifèrent pas, ou qui prolifèrent très peu. C'est le cas des cellules musculaires, c'est le cas des cellules cardiaques. On a très peu de cycles de prolifération. Et du coup, il n'y a pas d'extinction, il y en a très peu. C'est le cas du cerveau aussi, d'ailleurs. Il y en a très peu. Donc, on est avec des armes différentes en fonction d'un intérêt biologique qui est exactement celui-là. Alors, en ce qui concerne la réponse immunitaire, c'est donc la réponse que le corps va faire à l'introduction d'un élément étranger, et le virus est un élément étranger. C'est clair que c'est une énorme préoccupation pour nous. C'est une énorme préoccupation parce que on se heurte à deux choses. La première chose, c'est, bon, si le traitement fonctionne, mais qu'il ne fonctionne pas suffisamment, on voudrait bien pouvoir revenir. Évidemment, si un malade est partiellement amélioré et qu'on se dit, si on lui fait une deuxième dose, ça va aller beaucoup mieux, on préférerait pouvoir réinjecter. La deuxième chose, c'est que, en particulier pour l'AAV, on est un certain nombre ici à avoir eu un rhume un jour. Voire 100% des gens ici ont eu un rhume un jour. Alors, c'était pas forcément un rhume avec un AAV, c'était pas forcément un rhume avec l'AAV qu'on va utiliser, parce que c'est une famille, donc, et tout. Enfin, il y a quand même un risque, et ça nous est arrivé, par exemple, en travaillant chez le 5, il se trouve que on travaille aujourd'hui avec des singes qui viennent d'un élevage est sur l'île Maurice. Et sur l'île Maurice, la plupart des singes ont été infectés, c'était tout à fait banal, par un AAV qui est le même que celui qu'on veut utiliser, qui est l'AAV 8. Bon. Et cet AAV 8, qui provoque une petite infection de rien du tout, provoque une immunisation. Et du coup, la plupart des singes qu'on récupérait d'île Maurice, on ne pouvait pas tester nos vecteurs de thérapie génique AAV 8, parce qu'on avait déjà des anticorps dans la circulation sanguine. Et ça va être le même problème pour un certain nombre de patients. Donc, on est parfaitement d'accord que c'est un problème sur lequel il y a plusieurs équipes qui travaillent dans le monde aujourd'hui, c'est un problème qui nous préoccupe globalement parce que ça va être un frein au développement de la thérapie. Mais on a des idées.
Oui, ma première question rejoignait la question de la personne précédente. C'était sur la lourdeur du traitement par rapport au patient. De savoir s'il y avait plusieurs traitements, combien de temps ça durait, les injections, enfin, ça c'est la première question. La deuxième question complètement différente, c'est par rapport à la politique des trusts de la pharmacie par rapport à la thérapie génique. Parce que Sanofi, enfin moi je bossais chez Sanofi, dans les années 90, ils ont commencé à y être. Il y a eu des avancées. Pendant un moment, ils allaient mettre un maximum de fric. Après, ils ont reculé. Je voulais savoir un petit peu. Ils sont comme des prédateurs en attendant les petites boîtes qui réussissent pour les racheter au bon moment. Enfin, voilà. Donc, je pense que c'est important d'avoir cette vision-là.
Alors, en ce qui concerne la lourdeur du traitement. Faut faire la différence entre les essais cliniques et un traitement qui arrivera sur le marché. Les essais cliniques, c'est lourd. Les essais cliniques, c'est lourd parce que c'est pas le traitement lui-même qui est lourd. Hein. On va faire une injection, ça peut être une injection locale pour l'œil, ça peut être une injection dans la circulation sanguine, mais ça n'est qu'une injection, de toute façon. Maximum pour l'œil, 2 heures d'anesthésie générale. L'infection dans la circulation sanguine, donc pas même qu'il y ait l'anesthésie. Alors, en revanche, quand on est en essai clinique, ça veut dire des tas d'examens avant, des tas d'examens après, de façon régulière, toutes les semaines, pendant quelques temps, puis tous les mois. Et en réalité, la réglementation nous impose de continuer à surveiller tous les patients qu'on met en thérapie génique ou en thérapie cellulaire toute leur vie sous surveillance. Donc on va devoir, d'une façon ou d'une autre, créer un système de surveillance qui nous permette de revoir ces patients-là, par exemple une fois par an, pour savoir comment ça se passe. C'est dans la réglementation. Donc, ça c'est pour les essais. Une fois qu'un traitement est accepté et mis sur le marché, on n'est plus dans le même cas. Parce que là, bon, évidemment, c'est un traitement qui va se faire à l'hôpital. C'est un traitement qui va se faire dans des conditions particulières, parce qu'il y a des protections qu'il faut assurer pour le personnel d'ailleurs, comme pour le patient, mais c'est un traitement qui va se faire avec un geste qui est véritablement un geste banal. Et puis après, c'est un suivi qui doit être mis en place simplement pour vérifier que le patient va bien, ça sera au début tous les 3 mois, et puis ensuite... tous les ans, il va y avoir son médecin et il va pas faillir. Hein. Mais il n'y a rien de spécifique à faire pour qu'on puisse craindre une fois que le traitement sera mis sur le marché, sinon il n'est pas mis sur le marché. Sinon on reste en essai clinique. Donc la lourdeur va être sensiblement différente. Enfin, il s'agit quand même aujourd'hui d'une médecine expérimentale et à mon avis pendant encore un certain temps, tout le monde va être considéré comme en essai à différentes phases. Soit une phase vraiment expérimentale, ou que ce soit une phase 4, comme on dit, c'est-à-dire une phase après l'AMM, dans laquelle on suit les patients encore pour quelques temps. Alors, les trusts comme Sanofi, alors tu as exactement décrit la situation, c'est pendant quelques temps, pendant la vague des années 90, Sanofi, comme d'autres, a investi, créé, ça s'appelait, je crois, Janssen. Qui était une vraie boîte filiale, et puis ensuite a cassé tout ça, et les gens sont partis. pour faire autre chose. Donc ça a été les hauts et les bas, ils se sont comportés comme les capitalistes que je décrivais tout à l'heure. C'était pas des financiers, c'était des industriels, mais ils se comportaient de la même façon. Il y avait quelque chose de juteux et ils se mettaient dessus. Aujourd'hui, et c'est vrai d'ailleurs pas que pour la thérapie génique, c'est vrai pour toutes les thérapeutiques innovantes, les industriels tiennent absolument pas à prendre des risques. Donc Sanofi ferme les centres de recherche Sanofi parce qu'ils sont beaucoup plus intéressés à ce que d'autres gens prennent des risques, d'autres gens montrent les débuts de résultats sur des traitements nouveaux, et après ils arrivent et ils rachètent. Bon. Et ça leur permet d'éviter de payer pour des recherches qui ne déboucheraient pas, ils ne payent que pour les recherches qui débouchent. Alors évidemment, ils les payent un peu plus cher que s'ils les faisaient eux-mêmes, hein, mais comme en parallèle, ils gagnent, en particulier à la bourse, à chaque fois qu'ils suppriment 1000 emplois, ils gagnent 3 points à la bourse, ils récupèrent dans l'autre sens. Et c'est vraiment une nouvelle façon pour l'ensemble de l'industrie pharmaceutique de fonctionner que de fonctionner sur le dos de petites boîtes de biotech. Alors, on a vu ça, et on le voit d'ailleurs encore maintenant, mais on l'a vu à d'autres moments dans l'industrie informatique, dans lesquelles les gros attendaient que les petits se plantent et puis récupéraient les logiciels. Bah, c'est la même chose avec les boîtes de biotech.
J'avais deux questions. La première, c'est le chien, la myopathe. Je voulais savoir à peu près à quelle période vous l'avez traité par rapport au début de sa maladie, puisque vous saviez qu'il était porteur in utero, vous avez traité à la naissance, et combien vous avez de recul maintenant. Donc ça, c'était ma première question. Et ma deuxième question, vous avez parlé de la mucoviscidose. Est-ce qu'il y a quelques pistes ou c'est encore très très flou?
Alors, en ce qui concerne le chien, les chiens sont traités par thérapie génique en général au moment où les symptômes ont commencé à apparaître, c'est-à-dire au moment où le chien commence à se traîner, ce qui le plus souvent est entre 4 et 6 mois pour les chiens GRMD et avant que les troubles cardiaques risquent de prendre le dessus. Et chez ces chiens, les chiens meurent en général de troubles cardiaques, de cardiomyopathie. Alors ils peuvent vivre jusqu'à 15 mois, mais en réalité, ils meurent très souvent autour d'un an. Donc on se situe vraiment entre les deux. Au moment où on est sûr que le chien est atteint et cliniquement va développer la pathologie, et puis ensuite, avant que les signes cardiaques, qui en fait sont des signes lésionnels, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une dégénérescence avec une déformation du tissu cardiaque, que cela devienne trop important et qu'on risque de perdre les chiens à cause de ça. Donc, ça pour la première question. Pour la mucoviscidose, alors oui, il y a d'ailleurs depuis très longtemps des études qui visent à la thérapie génique de la mucoviscidose par réintroduction du gène CFTR, qui est le gène qui est muté dans la mucoviscidose. Le problème auquel se heurtent les équipes qui travaillent dessus, c'est le problème de la cible. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne sait pas, on sait que manque le CFTR, ça manque sur toutes les cellules, mais on ne sait pas quelles cellules il faut atteindre réellement avec cette thérapie génique. Il y a des tas d'essais qui ont été faits, et le problème c'est que la mucoviscidose a été une des maladies qui a été la première à être une cible de la thérapie génique, parce qu'on s'est dit qu'on allait pouvoir donner aux patients des sprays comme de la ventoline avec lesquels ils allaient pouvoir aspirer dans leurs poumons et tapisser en fait les cellules avec des produits de thérapie génique, et comme ça on corrigerait les cellules. Le problème c'est qu'on s'est rendu compte en faisant ça, parce que ça a été fait, on s'est rendu compte qu'on ne touchait pas les bonnes cellules. Et du coup, le problème aujourd'hui c'est comment on fait pour toucher les bonnes cellules. Aujourd'hui, on pense que les bonnes cellules sont en profondeur dans les cryptes pulmonaires, du coup très très difficile à atteindre. Tout le travail qui avait été fait sur les voies aériennes, pour l'instant, a été mis de côté parce qu'on se dit que finalement, il vaudrait mieux passer par une voie systémique, donc par le sang, pour atteindre une meilleure récupération. Et puis, depuis que le travail a commencé sur la mucoviscidose, les cliniciens se sont rendus compte que, certes, les atteintes pulmonaires étaient importantes, mais il y avait aussi les atteintes digestives. Et ces atteintes digestives qu'on avait un petit peu tendance à oublier parce que les patients mouraient de leurs problèmes pulmonaires bien avant que ça se développe. Au fur et à mesure qu'on a réussi à faire vivre plus longtemps les patients, on s'est rendu compte que c'était des problèmes extrêmement rares. On va arrêter après une autre question, c'est ça?
Une dernière question alors. D'accord.
Une petite question, tu disais que dans la thérapie génique, on ne pouvait que empêcher une dégradation de la maladie. En fait, moi, dans les vidéos, j'ai eu l'impression que les chiens, ils guérissaient en quelque sorte, quoi.
Alors,
j'ai mal compris?
Non, tu as eu raison de voir ça pour l'œil, parce que c'est net que ce chien qui était aveugle a recommencé à voir. Alors, ce que je voulais dire, c'est que quand on fait de la thérapie génique, on essaye de réintroduire un programme génétique dans des cellules. Un certain nombre de ces maladies aboutissent à une dégénérescence cellulaire. Quand il n'y a plus de cellules, tu ne peux plus réintroduire le gène. C'est aussi simple que ça. Alors, ce qui se passe dans la rétine, je vais pas arrêter sur la description, mais je vais quand même montrer que qui disparaissait, c'était les photorécepteurs. Les cellules qu'on voit ici, c'est les cellules qui sont en dessous des photorécepteurs, qui sont les cellules de ce qu'on appelle l'épithélium pigmentaire. Ces cellules de l'épithélium pigmentaire sont responsables de l'entretien des photorécepteurs. Donc, ces cellules sont atteintes par le défaut RPE65. On va réintroduire le gène dans les cellules de l'épithélium. Elles vont pouvoir refaire leur boulot de protection des photorécepteurs. Bon. Il se trouve que ces cellules-là ne dégénèrent pas trop, en tout cas, avec le RPE65. En revanche, les photorécepteurs qu'elles ne protègent plus correctement dégénèrent. Donc, ce qui se passe avec les chiens, c'est qu'il y a une cécité qui est liée au fait que les cellules fonctionnent mal avant que les photorécepteurs disparaissent. Et lorsqu'on remet la thérapie génique, on fait refonctionner le système et les photorécepteurs qui étaient présents permettent d'avoir une vision récupérée. Voilà, c'est le créateur du complexe, mais qui te donne la raison. Ce qui est important, je crois, à comprendre, c'est qu'on ne peut pas reconstruire une cellule au travers de la thérapie. On ne peut que la modifier.
Eh ben, merci à Marc Péchanski pour son exposé.